charme, ô son mort, du passé, fumée d'enfouis, de dissous, saison. Et la vie s'éloigne, la mort approche.
Bon, ben, tu nous fais une excellente lecture. Alors, on l'a déjà lu, mais pas aussi bien, je veux dire, s'il faut te répondre. Hein, voilà. Donc, là, vous avez un modèle, disons, de la façon dont vous pouvez le lire, hein, sans excès, mais en faisant passer le texte, hein, c'est-à-dire non seulement les mots, mais ce qu'il y a derrière. Voilà, donc après cette excellente lecture, on vous redonne le plan qui a été donné hier, c'est-à-dire, pour ceux qui n'étaient pas là, première partie situation du texte, donc ce qui précède la lecture, deuxième partie la nostalgie de l'enfance, troisième partie une reconstruction en forme d'inventaire, une quatrième partie, les centres d'intérêt. Alors, ça ne se voit pas, mais ces deux parties-là, reconstruction en forme d'inventaire, ça veut dire désordre, hein, désordre apparent, et les centres d'intérêt, ça veut dire il y a quand même un ordre dans le texte. Hein, on peut trouver une logique, hein, on peut trouver un ordre. Et puis enfin, le bonheur enfui, ça porte sur... moi je dirais d'une certaine façon ce que dit le texte, le message, hein, et la plupart du temps le message on le trouve à la fin du texte, hein, sauf dans le cas de l'exposé d'une thèse, hein, où on peut avoir la thèse exposée dès le début, mais dans la plupart des autres cas ce qu'on a à dire est à la fin. Hein, exactement comme quand on discute avec quelqu'un, y a tous les préambules et on se pose la question de savoir où est-ce qu'il veut en venir. Eh bien là, on ne sait qu'à la fin du texte où Cohen veut en venir, et à la fois avec l'évocation de son enfance et peut-être même avec l'ensemble du livre de ma mère. Hein, c'est-à-dire que... Moi je dirais, le projet du livre de ma mère, c'est peut-être d'écrire un tombeau pour sa mère, c'est-à-dire de l'enterrer dans un beau livre, hein, c'est-à-dire d'écrire un livre à son éloge, mais je dirais le but réel, c'est probablement ce qu'il nous dit ici à la fin, c'est-à-dire le but réel de presque toutes nos activités, c'est-à-dire conjurer l'angoisse de la mort. Hein, pourquoi est-ce qu'on travaille ou pourquoi est-ce qu'on s'amuse? Pascal, le philosophe du XVIIe siècle, nous dirait, pour essayer de ne pas penser à notre mort. Hein, et c'est pour ça qu'on n'aime pas s'ennuyer, parce que ça nous laisse du temps pour y penser. Hein, alors que quand on est dans l'activité, eh bien, dans l'action, eh bien, on pense à autre chose, comme on dit. Hein. Voilà. Donc ne pas penser à ses deuils, par exemple ne pas penser à la mort de son père, pourquoi pas, qui est proche, hein, même si moi je pense quand même que c'est, pour moi c'est quelque chose de très suspect que Cohen écrive ce livre à l'éloge de sa mère juste après la mort de son père, en gommant en grande partie la présence du père. Hein, néanmoins, on sait aussi que dans la famille juive, la place de la mère, c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein. Voilà, elle est vraiment le centre de la famille. Le centre familial, mais en même temps, d'une certaine façon, le centre religieux. Hein, c'est la mère qui est détentrice de la religion. Donc on rappelle ce qu'on a dit dans la situation. Hein, le livre de ma mère publié en 54, la mère de l'auteur morte en 43, c'est-à-dire plus de 10 ans auparavant. Et Cohen qui écrit Chant de mort après, C-H-A-N-T, après la mort de sa mère. Son père mort en 1952. Et le livre de ma mère publié donc 2 ans après la mort du père. On a parlé du genre à mi-chemin entre la biographie et l'autobiographie. On a dit du registre qu'il était à la fois lyrique et élégiaque, c'est-à-dire qu'il était évocation évocation du bonheur et évocation du deuil, d'un double deuil, hein, c'est pas grave, c'est une fille de la campagne. Hein. C'est une citation de la pièce qu'on vient de jouer, hein, avec vos camarades. Donc, on disait, registre à la fois lyrique et élégiaque, témoignage de deux deuils, un deuil dont on parle, la mort de la mère, et un deuil qui est eu, la mort du père. Il est peut-être trop tôt pour en parler, la mort du père, d'une certaine façon, mais quand même. Bon. Alors, on se trouve au chapitre 7, et on avait repris, pour illustrer le débat, on avait repris une phrase du chapitre 5 qui était, du début du chapitre 5, qui était « Pleurer sa mère, c'est pleurer son enfance ». Hein, moi, je dirais, cette phrase-là, là, il vaudrait mieux l'inverser d'une certaine façon. Hein, pleurer son enfance, c'est pleurer sa mère. Et je prolongerai peut-être d'un cran, j'ajouterai, c'est peut-être aussi pleurer sa mort future. Hein, puisque c'est là-dessus que va conclure Cohen. Donc, le côté paradoxal du passage, il ressuscite un passé qu'on peut dire heureux, malgré la période historique dans laquelle on se trouve quand même. 1943, on est au lendemain de la guerre, on vient d'en voir des vertes et des pas mûres. Hein. Voilà, et il est obligé de constater que ce passé, eh ben, ce passé qu'il ressuscite, en même temps, il est obligé de constater que ce passé-là est mort. Hein, et ce qui souligne l'idée que le passé est mort, c'est la mort des parents. Je vous avais parlé un petit peu des parents détenteurs de la mémoire, hein, c'est-à-dire que les parents sont à la fois notre miroir, c'est-à-dire qu'avec eux, on peut parler de notre passé, et en même temps, ils détiennent des secrets, c'est-à-dire ils détiennent des morceaux de notre vie que nous avons oubliés parce qu'on était trop petit ou parce que tout simplement, on a oublié. Hein, donc les parents détenteurs de la mémoire sont disparus, d'où l'idée de sauver une partie de cette mémoire en écrivant un morceau d'autobiographie. En rappelant que celui qui parle est narrateur, auteur, sujet. C'est-à-dire, c'est celui qui raconte, c'est l'auteur du livre, et c'est de lui-même qu'il parle. Donc, petit 2, la nostalgie de l'enfance. Ça commence par trois invocations. Hein, des invocations, c'est-à-dire, par la voix, on essaie de faire venir. C'est ça l'idée de l'invocation. Les invocations, de façon ordinaire, sont adressées aux dieux. On peut aussi invoquer la pluie ou invoquer un événement, c'est-à-dire essayer de le faire venir en l'appelant. Hein. Et cette invocation, ici, elle interpelle le passé. « Oh, mon passé !» Et il précise, on a d'abord le terme général, « mon passé, total », et puis il précise la période « ma petite enfance ». Il va commencer dans l'ordre chronologique. Hein. On peut parler de désordre, on va parler de désordre, mais on commence dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire ben, quand j'étais bébé, quoi, hein, pas quand j'étais chanteur, mais quand j'étais bébé. « Ma petite enfance, aux chambrettes ». Alors, là, ici, dans le diminutif de chambrette, il y a, et on parlera de l'adjectif petit qui est si fréquent dans ce texte-là. Tout est petit parce que l'enfant est petit. Hein. Il faut voir aussi que... alors, petite chambre, petit enfant, alors il y a peut-être une réalité, la chambre de l'enfant est peut-être, bien entendu, moins grande que celle des parents, hein, malgré l'idée paradoxale que pour le petit, tout paraît grand, hein, dans la maison, que ce soit les meubles, les parents, etc., les pièces, hein, plus on est petit, plus tout paraît grand. Donc, voilà. Eau chambrette, alors, au mont passé, ma petite enfance, eau chambrette, ça, on trouve ligne 1, et on va trouver un peu plus loin la troisième invocation, qui est marquée par le vocatif eau circonflexe, hein, vocatif qui est également, auquel on donnera également un caractère lyrique. À la ligne 7, vous trouvez « Ô mon enfance » qui annonce la deuxième partie chronologiquement. On va passer de la petite enfance à l'enfance. Ce que fait revivre Cohen dans ce texte, c'est la petite enfance, donc, elle est liée étroitement, comme pour tout le monde, hein, ou presque, à la présence de la mère, et la présence de la mère, elle est signalée de façon précise, hein, elle est évoquée directement à la ligne 5 avec « baiser de maman », à la ligne 13 « elle me menait une fois par an », avec le pronom « elle », hein, ensuite, à la ligne 17, vous allez avoir « chanson de maman », à la ligne 19, vous allez avoir « gâteau de maman », et puis à la ligne 20, « sourire de maman », hein, voilà, elle est nommée, donc, sa mère, directement, et moi je dirais, en avançant dans le texte, peut-être de plus en plus fréquemment. Donc, la mère évoquée aux lignes 5, 13, 17, 19 et 20, 17, 19 et 20, c'est elle qui crée un univers de confort matériel et affectif, c'est-à-dire que cet univers de confort et d'amour que vous avez au début, hein, quand il parle de la chambrette, des petits coussins, des confitures, des chromos, etc., c'est déjà la présence de sa mère qui est annoncée. Hein, présence annoncée implicitement au début et qui va devenir très rapidement explicite. Hein, et tout cet univers de confort matériel, de douceur, de tendresse, de soins, ça nous traduit la présence de la mère. Il y a dans cette énumération un effet d'accumulation. Hein. Alors, en général, quand vous remarquez dans un texte une énumération, hein, c'est-à-dire une liste, vous pouvez à chaque fois parler d'effet d'accumulation. Hein. Y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de quoi ? De témoignages d'amour, de sa mère. D'idées aussi, moi je dirais aussi, d'idées de sécurité. Hein, parce que toutes ces petites choses, ça lui dit, tu es en sécurité, bien entendu par opposition à sa situation présente. Les parents ne sont plus là, maman n'est plus là pour me protéger. Hein, il y a très certainement cette idée-là, dans la mort de la mère, l'idée d'être sans protection, ce qui est aggravé bien entendu par la mort du père, puisque le père s'est substitué sans doute en partie à la mère, hein, mais là, maintenant qu'il est lui parti à son tour, en quelque sorte, Cohen se trouve sans protection, sans défense, sans autre défense que ce qu'il réveille en ce moment, c'est-à-dire sans autre défense que la mémoire et le souvenir, c'est-à-dire le pouvoir de se dire « j'ai été heureux », mais à conjuguer, comme vous le voyez, à conjuguer au passé. Ce qu'il faut remarquer aussi dans cette énumération, hein, c'est l'emploi quasiment systématique du pluriel. Vous allez trouver quelques singuliers, mais quelques singuliers par exemple au début, ma petite enfance chambrette, mais très rapidement on va s'en aller au pluriel. Hein, coussin brodé au pluriel, le petit chat rassurant, même chose. Vertueuse chromo au pluriel, confort et confiture, tisane, pâte pectorale. Tout ça au pluriel. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la répétition, le retour, on peut dire utiliser un mot savant qui est le mot récurrence. Hein, récurrence, c'est quelque chose qui revient, ça s'écrit avec deux R, E-N-C-E, R-E-C-U, deux R, E-N-C-E. La répétition, si vous voulez être plus simple, de l'adjectif petit. Hein, alors petit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, allié au monde de l'enfance, hein, à l'idée... que l'enfant s'en fait, essaie de mettre sa représentation du monde à sa taille, en quelque sorte, hein, tout en vous soulignant quand même que petit peut avoir des sens différents. Hein. Alors, petite enfance, ça veut dire quand j'étais un petit enfant, voilà. Donc ce n'est pas une enfance réduite, d'une certaine façon, c'est le début de l'enfance. Hein, petite enfance, ça signifie début de l'enfance. Et petit baiser du soir, il y a l'idée en plus du petit, moi je pense qu'il y a l'idée de la gentillesse. Hein, petit cadeau, petit baiser. Voilà, les attentions. Hein, voilà, petit voyage. Hein, le petit voyage, c'est un faux voyage, puisque c'est un voyage imaginaire. Hein, c'est une histoire que raconte la mère. Petite main sale, bah, c'est la taille des mains quand même. Hein, mais il y a les petites mains, c'est il y a mignon derrière. Hein, il y a l'idée de, il y a une idée de beauté, et dans l'expression, on va peut-être pas parler d'oxymore, mais il y a un peu de ça. Hein, il y a là, dans l'expression petite main sale, il y a à la fois joli et en même temps sale. Hein, donc quelque chose de contradictoire. L'idée que les mains sales d'un enfant sont encore belles. Elles ont beau être sales, c'est encore joli. Hein, c'est encore joli. Petite paix et petit bonheur. Non pas méprisables parce qu'ils sont petits, mais à la taille de l'enfant, en quelque sorte. Hein, comme c'est au pluriel, ça veut dire en même temps nombreux. Hein. Ce qu'il faut relever encore en ce qui concerne ce chapitre de la nostalgie de l'enfance, c'est l'emploi des possessifs. Hein, vous avez de nombreux possessifs de la première personne qui peuvent être révélateurs de ce qu'on appelle de ce qui serait une reconquête ou une réappropriation d'un passé heureux, mais d'un passé qui en même temps est perdu. Hein, il n'est plus là. Donc avec l'emploi des possessifs, d'une certaine façon, il le récupère. Hein, il se le réaccapare. Alors, c'est... Voilà, il récupère le passé. Ligne 1, mon passé, hein, ma petite enfance. Ligne 5, mon lit. Ligne 6, mon petit voyage. Et puis, mon ami, un écureuil. Hein, Alors, ce qu'il y a d'un peu curieux dans le « Mon ami un écureuil », c'est l'article indéfini, hein, c'est le 1. Ça veut dire qu'il est inventé, c'est ça. Hein, il y aurait un écureuil. Ça, voilà, on attendrait « Mon ami l'écureuil ». Mais « Mon ami un écureuil », c'est l'idée qu'il est inventé par la maman. Hein, c'est l'idée de l'histoire inventée. Il y aurait un écureuil. Hein, ça serait dans un pays lointain, etc. Hein, on est dans l'univers, ça nous montre qu'on est dans l'univers du conte. Hein, l'imprécision du lieu, du personnage, l'imprécision du temps, tout ça, ça marque l'univers du conte de fées. Alors, mon ami un écureuil, et ligne 7 aussi, ô mon enfance. Hein, donc je vous ai dit ici, volonté de récupérer des éléments de son bonheur, et d'un bonheur qui est perdu, passé. On arrive au petit 3. Donc petit 3, reconstruction en forme d'inventaire. On a mis au petit 3 ce qui nous apparaît dès la lecture du texte, dès le début. C'est-à-dire que cette idée qu'on a évoquée déjà précédemment, d'énumération. Alors, ne pas oublier de dire que vous avez toute une série de phrases nominales, et ne pas oublier peut-être de repérer au milieu de ces phrases nominales quelquefois ce qui n'est pas nominal. Est-ce que vous l'avez vu ? Qu'est-ce qui ressemble à des morceaux de proposition avec un verbe ? À mon avis, il doit y en avoir au moins deux. Est-ce que vous les voyez dans le texte ? Ils sont à peu près au même endroit, hein, et relativement centrés, c'est-à-dire relativement au centre du passage. Je ne parle pas des deux phrases de la fin. Hein. Eh bien, juste après les petites mains sales, quand il parle de ses genoux écorchés, et qu'il dit « et j'arrachais la croûte toujours trop tôt », voilà un petit bout de proposition avec un verbe, et juste après, tu as « et auquel je pensais des mois à l'avance hein, », qui est une, en réalité, c'est une relative. D'accord hein. Vous avez d'abord une proposition indépendante coordonnée, « et j'arrachais la croûte toujours trop tôt hein, », oui, alors ça je ne l'ai pas vu, où, c'est à quel endroit ?
C'est juste au-dessus.
Juste au-dessus.
Voilà,
c'est
un endroit où elle m'a mené mes trois parents et auquel je pensais des mois à l'avance.
Ah oui, elle me menait, d'accord, j'ai passé ça. Alors, où elle me menait, donc ça commence à où, hein, où et auquel, qui sont en fait deux propositions relatives.
Et l'état de la montagne, il y a tellement resté debout sur le terrain.
Pas exactement, là, hein, c'est pas une proposition, d'accord. Là, on est encore dans l'énumération. Hein, donc, vous avez une indépendante coordonnée, mais coordonnée non pas à une autre indépendante, mais coordonnée à l'énumération, et j'arrachais la croûte toujours trop tôt, belle image de l'enfance, hein, du petit gamin qui est pressé d'enlever sa croûte, et puis ça saigne, c'est vraiment observé finement. Hein, et puis ensuite, où elle me menait une fois par an, pronom relatif où, c'est une relative, et derrière, auquel je pensais, même chose, auquel, hein, auquel c'est aussi une relative. Hein, c'est-à-dire que, voilà, on a des relatives, on n'a pas de principale. À quel endroit ? Ah oui, tu as raison, très bien. Que maintenant, voilà. Alors, tu as encore des relatives ici, c'est bien de les sortir en quelque sorte, hein, de sortir ce qui est verbal, de le faire apparaître, parce que au départ. Alors, ça reste encore mis à part, et j'arrachais la croûte toujours trop tôt. Les autres restent toujours alors la relative, vous savez que c'est une forme nominale, plus ou moins nominale de la proposition, hein, que la relative joue souvent le rôle d'adjectif. Donc vous avez, si on relève encore, si on relève tout ce qui est verbal, hein, on rappelle, qui me disait après avoir bordé mon lit, que maintenant j'allais faire mon petit voyage dans la lune avec mon ami un écureuil, hein, qui peut suggérer à la limite peut-être même le mouvement de l'écureuil, et j'arrachais la croûte toujours trop tôt, et puis où elle me menait une fois par an et auquel je pensais des mois à l'avance. Hein, vous voyez donc qu'en observant, on va trouver quand même dans cette énumération des éléments verbaux et des propositions. Hein, ça rejoint un petit peu l'idée que j'avais donnée tout à l'heure d'écriture en arabesque, c'est-à-dire d'une écriture qui n'est pas si simple que ça. Hein, qui est, même si le texte peut sembler simple au départ, l'écriture est une écriture, moi je dirais, travaillée. Hein, c'est une chose qui nous a souligné dans le préambule, hein, en disant qu'il maîtrisait quand même, sa plume. Alors, cette espèce d'inventaire que nous fait ici Cohen de son enfance, est à rapprocher de l'écriture d'un autre écrivain qui s'appelle Georges Perec, hein, P-E-R-E-C, Georges Perec, auteur d'un ouvrage qui s'intitule, lui, « Je me souviens », hein, dans lequel il a fait un inventaire de ses souvenirs, cette fois-ci complètement dans le désordre, dans un désordre volontaire. Mais, contrairement à Cohen, Cohen qui nous met les objets à la suite sous forme de liste, faisant précéder chaque souvenir de l'expression « je me souviens ». Hein ? Dans l'ouvrage de Perec, sa liste c'est « je me souviens » des Mistral gagnants, « je me souviens » de quoi il peut se souvenir, « je me souviens du tramway »,« je me souviens », etc. etc. Hein ? Donc, cet ouvrage de Perec ayant été adapté au théâtre et interprété par le comédien Samy Frey. Alors ce qu'on va dire à propos de ce petit 3, reconstruction en forme d'inventaire, avec l'idée de désordre qu'il y a derrière, eh bien essayez de voir que derrière ce désordre, il y a en réalité une construction logique, qui est en rapport avec le fonctionnement de la mémoire, même chronologie qu'on l'a vu tout à l'heure, puisqu'on a commencé par la petite enfance et par l'enfance. Ce qui a remarqué du texte aussi, c'est qu'il est composé de 4 phrases uniquement. La première qui commence par « Oh mon passé, ma petite enfance », la deuxième qui commence par « Oh mon enfance, je l'ai de coin », les deux dernières très courtes, hein, qui sont « Les rives s'éloignent » et « Ma mort approche ». Hein, donc 4 phrases, 2 très longues et 2 très courtes. Alors la remémoration, c'est-à-dire la période où il se remet en mémoire, n'est constituée que de 2 phrases. La première occupe les lignes 1 à 7, la seconde les lignes 7 à 21. Toutes deux, ces 2 phrases commencent par un vocatif, on a vu tout à l'heure, une invocation, c'est-à-dire le fait d'appeler cette enfance à revenir. On a dit qu'on utilisait le procédé d'accumulation par l'énumération d'éléments juxtaposés. Juxtaposés étant dit, posés les uns à côté des autres. Oui, l'ensemble de la liste. Hein, par l'énumération d'éléments juxtaposés, posés les uns à côté des autres, sans autre liaison. Alors ce qu'on a observé à l'instant, c'est-à-dire parfois Cohen prolonge l'énumération par une subordonnée qui développe un segment particulier. Donc ces subordonnées qu'on retrouve aux lignes, on vient de les voir, aux lignes 5 et 6, aux lignes 12 et 13 et aux lignes 17 et 18. Ou alors la proposition coordonnée, c'est-à-dire celle qui commence par « et », hein, qui a dans ce cas-là une valeur d'incise, c'est-à-dire une proposition à l'intérieur d'une autre, hein, qui est insérée à l'intérieur d'une autre, et c'est la proposition des lignes 11 et 12, et j'arrachais la croûte toujours trop tôt. À remarquer aussi que la première phrase s'ouvre sur un vocatif à 3 termes, rythme qu'on appelle ternaire en poésie et qu'on va retrouver un peu partout dans le livre de ma mère, qui en souligne l'aspect lyrique, hein, en 3 temps. Quels sont les 3 termes qui accompagnent le premier vocatif, hein, c'est « Oh mon passé, un, ma petite enfance, deux, aux chambrettes, trois. » D'accord ? Voilà. Alors, on l'a dit aussi, hein, qu'est-ce qui est évoqué ? Une intimité douillette, une décoration inconfortable, hein, la chambrette, les coussins, les chromos, c'est-à-dire des images en couleur, hein, des images en couleur, à commenter peut-être le mot vertueuse, vertueuse chromo, ou alors moi je dirais soit religieuse, puisqu'on a parlé de la religion tout à l'heure, ou au moins à caractère moral, hein, c'est-à-dire ces chromos racontant des histoires, mettant en scène des histoires morales, ou des idées morales, hein, c'est-à-dire en quelque sorte des apologues en images, hein, des apologues en images. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, la cuisine, les dentelles, les veilleuses, le lit. Hein, tout un univers qui est rassurant. Alors, dans la deuxième phrase, vous retrouvez le même vocatif que le premier. Hein, on passe de « Ô mon passé, ma petite enfance » à « Ô mon enfance ». Et alors, dans le premier, vous aviez l'énumération de tout ce qui était alors, qu'est-ce qu'on a dit? Vertueuse chromo. Moi, je dirais... Le premier passage, essentiellement, il est centré surtout sur la chambre. Hein. Le second, je dirais qu'on est plus... L'univers est déjà, c'est déjà un peu élargi, et on va avoir évocation de ce qu'il y a dans la maison et à l'extérieur de la maison. Hein. Le premier passage sur la petite enfance est centré sur la chambre, même s'il y a quand même évocation de... Moi, je dirais la chambre, la cuisine, hein, parce qu'il y a quand même une évocation sérieuse de la cuisine. Hein. Et puis, quand on vous parle d'antique dentelle, odeur naphtaline, moi, je dirais là, c'est l'évocation de la chambre des parents, plutôt. Hein. Donc voilà les trois lieux qui sont évoqués dans la première partie, dans la première phrase, la chambre de l'enfant, la cuisine, la chambre des parents. Dans la suivante, on revient à la cuisine, un gelée de coin, mais aussi on commence à avoir des événements. Hein, des événements dans la vie. Hein, c'est-à-dire, par exemple, quand vous avez convalescence qui évoque implicitement la maladie, hein, les fois où j'ai été malade, et ce qu'il y a de bien quand on est malade, c'est quand on commence à aller mieux et qu'on ne retourne pas à l'école, hein, ça vous connaissez un peu, c'est le bon moment de la maladie, qu'on ne retourne pas encore à l'école, donc convalescence chérie, hein, c'est le moment heureux de la maladie, anniversaire, lettre du nouvel an, voilà, on commence à avoir des événements, la vie est marquée cette fois-ci par des événements, mais des événements qui reviennent régulièrement, hein, ce qu'il y a de particulier. Dans... Voilà, c'est ça. Hein, il a le souvenir d'événements réguliers, alors que précédemment, il avait le souvenir peut-être d'images ou de sensations. Hein, simplement d'images ou de sensations. Alors, il énumère ce qui est dans la maison, mais il commence à évoquer les événements extérieurs. Hein, les événements extérieurs, c'est-à-dire les foires. Le cirque Alexandre, d'abord les sorties, hein, du jeune enfant, et puis enfin le scolaire, et puis enfin l'école. Bon, on peut conclure cette partie-là en disant que, malgré l'impression de désordre, c'est relativement rangé, et que le désordre peut aussi traduire le désordre de la mémoire. Mais moi, je pense que s'il avait voulu traduire le désordre de la mémoire, on peut faire pire que ça. Hein. Pérec, dont je me souviens, le fait plus nettement et beaucoup mieux. Hein, de donner l'impression de désordre, moi, je trouve que c'est quand même relativement rangé. Donc, petit 4, on a dit petit 3, une reconstruction en forme d'inventaire. Petit 4, les centres d'intérêt. Donc là, on va voir comment on peut ranger les éléments de cette énumération. Alors, quel centre d'intérêt on peut avoir? Alors, les lieux, les éléments du décor, c'est-à-dire la chambrette, les coussins brodés, les chromos, le papillon du gaz, les veilleuses de porcelaine, qui nous évoquent ici la chambre, la cuisine. Les lieux, les éléments du décor, je ne suis pas très satisfait de la formule. Je crois que je l'ai dit aussi bien précédemment. Hein, les lieux, on avait dit, de façon plus complète, on avait dit la chambre de l'enfant, la cuisine, la chambre des parents. Hein, là, on a vraiment les lieux qui sont évoqués. Et puis ensuite, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les événements, les célébrations et les fêtes, c'est-à-dire les événements qui reviennent régulièrement, c'est-à-dire les lettres du Nouvel An, hein, les anniversaires, les foires, le cirque, en se disant que tous les ans, on va à la foire et au cirque. Hein, c'est donc ce qui revient chaque année et ce qui a permis d'ailleurs de le garder peut-être en mémoire. Il y a tout un centre d'intérêt autour de la gourmandise. Hein, le thème de la gourmandise est très largement développé avec les confitures, les tisanes, les pâtes pectorales. Bon, on sait, c'est des pâtes pour soigner la toux, mais c'est bon, hein, c'est sucré. C'est genre boule de gomme avec des petits morceaux de sucre à la surface. Le sirop d'orgeat. Hein, donc la boisson un petit peu exotique, exotique en France, mais peut-être pas exotique là où il est né, à Corfou, en Grèce, hein, sur l'île de Corfou. Les gelées de coin, hein, les dindes de Noël, tout ça c'est plaisir de bouche, hein, pas Georges. Hein, les bonbons à fleurettes. Alors les bonbons à fleurettes, moi je pense que ça évoque peut-être bien les bonbons à la violette, hein, qui sont en forme de fleurs, hein, qui ont des pétales. Hein, les goûters de pain et de chocolat, les gâteaux, hein, voilà, toute une évocation donc des gourmandises. Ensuite, vous avez dans les centres d'intérêt les objets d'écoliers. Alors voilà, ce qui va avec les objets d'écoliers, c'est-à-dire les cahiers, le sac d'école, les plumiers et les plumes. Alors là, avec l'idée, les plumiers et les plumes, les billes, il y a l'idée qui est très enfantine d'objets trésors en quelque sorte. Hein. C'est des objets précieux. On admire la marque de la plume. Voilà, pour la famille, c'est un gros achat, c'est sûr. Hein. Pour la famille, c'est coûteux et on le donne à l'enfant en l'entourant de précautions et en lui disant, attention, on s'est saigné pour vous donner ça, certainement. Hein. Mais en même temps, l'enfant accorde à ces objets-là un caractère précieux, quasiment magique. Hein. Voilà, c'est beau. Alors, après les objets d'écoliers, les moments privilégiés. Alors, les moments privilégiés, l'expression moment privilégié, elle est empruntée à la copine de Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire à Simone de Beauvoir. Alors, qu'est-ce que ça a évoqué, les moments privilégiés pour Simone de Beauvoir? Ça a évoqué, pour elle, les illustrations qu'il y avait dans les romans ou les livres qu'elle lisait. Vous savez qu'autrefois, et peut-être encore maintenant quelquefois, il y avait des illustrations, soit en rapport avec le texte que vous étiez en train de lire, soit un peu décalées, assez souvent d'ailleurs avec le texte. Et Simone de Beauvoir s'était posé la question de dire pourquoi on avait mis une illustration sur tel événement du roman. Eh bien, parce que c'était sans doute un moment privilégié du roman. Hein, d'où l'expression « moment privilégié ». Ici, les moments privilégiés, le baiser du soir de maman, bien entendu, hein, mais aussi ce qui constitue une intrusion de l'extérieur, les journaux illustrés du jeudi. Tous les jeudis, on a un abonnement et on reçoit. Alors, oui.
Les confitures qu'elle faisait aussi. Parce que c'était un peu assez.
Oui, alors ça c'est bien de le dire. Il ne le souligne pas, mais. Vous êtes peut-être dedans, la cérémonie des confitures, effectivement. Mais ça, il l'évoque pas, hein, pas directement. Alors attention que derrière l'expression journaux illustrés, c'est BD, hein, c'est le terme qu'on donnait, hein, magazine illustré, journaux illustrés, ça désigne la bande dessinée. Hein. En principe, bande dessinée pour enfants. Hein, donc, et les convalescences, on en a parlé suffisamment tout à l'heure. Alors, à relever systématiquement et dans d'autres textes de la même façon, c'est là-dessus qu'on va conclure. Hein. Il nous restera la partie 5, le bonheur enfui. Mais on termine celle-là avec, n'oubliez pas de faire l'inventaire des notations sensorielles. C'est-à-dire, en quoi est-ce que le texte évoque les cinq sens. La vue, hein, la vue, ben, par exemple, les chromos hein, du début. L'ouïe. Les chansons de maman, le toucher, les baisers de maman, vous pourrez trouver d'autres exemples, hein. L'odorat, ben, odeur naphtaline, et puis le goût, les confitures, et éventuellement les tisanes, même si les tisanes, on est sensible également à l'odeur. Hein. Donc, essayez de montrer comment la vue, les chromos du début. Oui, alors le papillon du gaz ou d'autres choses comme ça, oui, des images. Qu'est-ce que tu as vu? Les? Tu l'as vu à la télévision, ça. Moi, je n'ai pas eu le plaisir de le voir. C'est bien. Vous pourrez fermer la porte derrière vous, s'il vous plaît. Alors j'ai découvert que tu savais écrire en manga. Voilà, mais ça avait l'air de te plaire. En tout cas, oui. Voilà, ok.
Au revoir.
Au revoir.